Merci beaucoup, Anne, pour ce retour. Et c'est vrai que ça relevait complètement de l'injonction paradoxale. C'était pour faire un petit mot comme ça, c'est tout. Donc, on peut se donner quelques temps pour des questions d'explicitation sans rentrer complètement dans le débat, mais on a le temps un petit peu de réagir.
Bah, juste un tout petit point de détail qui résonnera peut-être, c'est Jean-Claude Hénin, que tout le monde connaît ici, un des grands instigateurs de l'évaluation à la DPD, hier dans une dépêche, disait... je pense qu'on est en train de faire n'importe quoi avec l'évaluation CM2 qui sort du ministère.
Bon, il y a de tels débats autour de ce mot, non ? Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais c'est vrai que dès qu'on s'approche un peu des choses, il y a de tels débats et de telles pratiques différentes qui... Oui, est-ce qu'il faut garder le même mot ? Je ne sais pas, oui.
Le problème, c'est la confusion entre les niveaux. On est dans des évaluations macro... méso, micro.
Voilà.
Et donc, alors le propos de Jean-Claude Hénin, propos quand même qui est quand même à la fois sur le micro, le macro et le méso. Du point de vue de la conception de cette affaire-là, on interpelle le niveau macro, les concepteurs, et en même temps, on envoie au terrain, au niveau micro, un message quand même qui est assez désespérant parce que faut voir la position de Jean-Claude Hénin, je veux dire. Et en même temps, le terrain, effectivement, en ce moment, il est dans un malaise monumental par rapport à ces évaluations-là. Hein, moi, il y a des recherches en ce moment à Toulouse là-dessus. Ah oui. Les enseignants, ils sont partants pour, mais vrai qu'on leur explique les règles du jeu. Hein, donc ça veut dire effectivement qu'au niveau macro, la conception n'est absolument pas pensée. La mise en place d'une formation à ce type de démarche n'est même pas pensable. Et donc, évidemment, sur le terrain, on a des réactions qui sont vives du côté de l'intolérable. On nous demande de faire des choses du jour au lendemain. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, avec toujours l'incertitude de l'intérêt de cette chose-là pour les enseignants, quand même.
Hein. Théo disait qu'il faudra 10 ans pour mettre en place ces évaluations et encore 10 ans pour savoir en faire quelque chose. Pour avoir travaillé sur quelles difficultés les enseignants ont à faire quelque chose des évaluations institutionnelles, je partage ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on était en train de commencer, grâce au travail opiniâtre, les équipes intermédiaires à tisser quelque chose d'efficace vers le bas, et là, on va avoir, enfin, c'est pas juste un propos de déclaration, mais c'est quelque chose qui effectivement, enfin, voilà, vraiment merci pour la présentation, parce que c'est exactement ça, mais c'est vrai que du coup, tous les métiers intermédiaires vont être à nouveau encore plus en difficulté, avec un rejet incroyable de la part des gens qui vont dire « Non, mais voilà, on ne peut pas travailler. Nous, c'est l'urgence du quotidien. » Et donc, voilà.
Moi, je voudrais dire quelque chose justement sur cette distinction entre cette évaluation macro, cette évaluation d'en haut et cette évaluation d'en bas. C'est que, et là je parle en tant que professionnel, donc complètement impliqué, c'est que on a ressenti sur le terrain à propos de ces évaluations CM2 une malhonnêteté. Parce que on nous a, quelque part, on a essayé de nous vendre ces évaluations comme un outil micro, donc censé pouvoir nous aider, tout en sachant que politiquement on voulait regrouper les écoles dans des pôles d'école et des pôles de performance, puisque c'est la tendance qui semble se présenter. Ces résultats devaient être publiés. Donc finalement, on a vraiment eu l'impression qu'on nous faisait prendre des vessies pour des lanternes, qu'on avait cette macro-évaluation, qu'on essayait de nous la vendre en nous la faisant passer pour de la micro-évaluation, et que ce point de vue justement extérieur de la recherche qui peut-être peut permettre justement de distinguer les deux, intuitivement on le fait dans les écoles, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que certaines évaluations nous dotent d'outils et que d'autres sont des moyens de récupération, c'est tout, de nous instrumentaliser. Je pense que la recherche a un vrai rôle à jouer là-dedans, justement en distinguant ces évaluations et en peut-être en dotant, alors peut-être via justement ces corps intermédiaires, en séparant et en faisant la segmentation de ces choses-là. Nous, quand on va dans les classes et qu'on a affaire effectivement à des stagiaires, eh bien, de façon... peut-être un peu entre deux portes et dans un couloir, dans un recoin sombre, on dit, en tant que professionnels qui avons du recul sur la pratique, que ces évaluations, on ne les sent pas non plus. à des stagiaires qui sont peut-être moins outillés, qui sont un peu perdus là-dedans. Et à mon avis, je pense qu'il y a un vrai apport et il y a un vrai enjeu, il y a un enjeu majeur pour former les professionnels de terrain à l'évaluation et pour leur permettre de distinguer cette évaluation d'en haut et cette évaluation d'en bas.
Tout à fait. Je voudrais rebondir parce que je pense qu'Anne a dit quelque chose que j'ai oublié de dire, mais qui est fondamental. C'est-à-dire que par rapport à votre travail, les évaluations macro qui se présentent comme des instruments d'action ne se posent pas à la question du développement professionnel et ne se posent pas à la question de l'intérêt que peut trouver le professionnel à entrer dans ce système. Or, on peut pas demander à des professionnels, c'est pour ça que les discours sur la résistance enseignante, tout ça c'est extrêmement agaçant, quel corps professionnel change sans trouver un intérêt, sans y trouver effectivement un intérêt au sens large, pas un intérêt financier stricto sensu, un intérêt de développement professionnel. Alors moi j'ai trouvé un intérêt à l'évaluation, enfin moi comme tout le monde, et puis c'est-à-dire qu'effectivement, une des difficultés du travail enseignant, et on l'a vu un peu aussi ici dans les films, c'est la difficulté à voir ce qu'on fait. C'est la difficulté à apprécier ce qu'on fait. Est-ce que l'objectif a été tenu ? Demande Bob. Ouais, bof. Il n'y a pas beaucoup de traces, mais à la limite, il pourrait ne pas y avoir de traces et avoir quand même quelque chose de cognitif. Bon, voilà. Mais on va chercher cette visibilité du travail. Et c'est vrai qu'en ce sens, l'évaluation propose de renvoyer au travailleur quelque chose qu'il voit. Il voit ce qu'il a fait, etc. Mais la question des temporalités, mais la question, c'est très bien ce que vous avez dit, c'est ça, c'est-à-dire un instrument macro qui se présente comme un instrument micro. Et moi, j'ai résolu ce truc-là en disant, le problème, c'est évaluer pour agir. C'est ça qui est pas pensé, c'est ça qui est délégué au terrain, c'est ça que personne ne sait faire, et c'est ça qui fait exploser les équipes. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir de la reconnaissance ou d'avoir de la motivation, l'évaluation peut être un instrument de démotivation et... fausses promesses de reconnaissance, si vous voulez. Et donc, on peut avoir ça, tout simplement par des mises en œuvre, par une confusion des niveaux, comme le disait Anne. Et donc, en la matière, il est urgent. Il y a une guerre des évaluations. Donc, j'espère que vous la gagnerez. C'est ça. Il y a vraiment, je crois que c'est un terrain de lutte, mais comme sociologue, c'est un terrain de lutte sociale pour la définition du mot. Il y a une guerre sémantique autour du mot. Et voilà, il faut la gagner, mais c'est pas forcément évident. Je pense qu'il faut la gagner en faisant du travail de recherche, en montrant, soit comme vous le faites, qu'il y a une possibilité d'autre chose qui puisse réconcilier effectivement l'institution et l'individu, et comme je le fais ou comme j'ai envie de le faire, en montrant ce que fait au travail, ce que fait à l'activité des dispositifs d'évaluation lorsqu'ils ne sont pas ce que vous décrivez. Moi, c'est ça que j'ai envie de montrer. En particulier, je suis stupéfaite de voir qu'aujourd'hui, le continent de l'évaluation est tellement proliférant qu'il gangrène l'activité. Dans le travail social, ils ont tellement d'évaluations à faire qu'ils ont mis les mêmes gens, des chefs de projet, pour faire l'évaluation. Et donc, du coup, ils réduisent les accueils des jeunes. Parce que c'est comme ça, on ne peut pas tout faire, ils n'ont pas de moyens en plus. Je voudrais montrer comment une certaine évaluation transforme l'activité, mais pas forcément toujours en bien. Bon, mais j'arrête là-dessus, mais c'est pas le sujet. Mais bon. Voilà. Mais moi, j'avais été soufflée quand j'avais parlé avec Emma, Tello et tout, parce que j'étais avec mes chefs d'établissement qui disaient, un chef d'établissement, de toute façon, il suffit. Alors, les chefs d'établissement, ils sont persuadés qu'il y a un effet chef d'établissement. Quand on leur dit en formation que c'est plus compliqué que ça, on est très mal. Une fois j'avais dit ça sans prendre des précautions, je revenais de vacances, j'avais un peu oublié ce qui se passait dans les séminaires de formation. Ça s'est super mal passé. Ils m'ont dit, mais vous nous avez démoralisé, franchement, si c'est pour être pessimiste, c'est pas la peine de venir aux formations, etc. C'était terrible, les inspecteurs étaient très fâchés. Tout ça parce que j'avais dit qu'il n'y a pas d'effet, enfin en France, on ne sait pas montrer l'effet direct du chef d'établissement sur la performance. Sur l'ambiance, oui. Sur la performance, c'est tout. Les recherches sont pas du tout nettes, etc. Donc, j'avais juste dit ça. Et donc, c'est dire qu'il, pour agir, il faut des certitudes. Voilà. Pour agir, il faut des certitudes. Or, les évaluations macro et de recherche ne sont pas des usines à certitudes. Elles sont des usines à questions, à débats, et voilà. Et donc, c'est ça la différence. Voilà. Pour agir, il faut être sûr que... Donc c'est un problème.
Oui, moi je voudrais réagir sur ce que tu dis justement, parce qu'il me semble qu'il faut introduire une petite nuance sur la recherche. Hein, ici, par exemple, notre présence ici montre une certaine, un certain parti pris, je crois, qui n'est pas partagé par l'ensemble de la communauté de recherche. C'est-à-dire que notre travail qui est fait ici, il est aussi dans cet intermédiaire, c'est-à-dire qu'on regarde les pratiques enseignantes, on travaille au plus près. Bon, il nous semble que c'est un petit peu ce qui s'est dit dans ces deux jours. En tous les cas, c'est une affirmation forte sur Aix-Marseille, c'est-à-dire de travailler au plus près de l'activité, c'est-à-dire s'intéresser au réel de l'activité. Pourquoi ? Ben, tu citais Marois, moi je reprendrai effectivement ce que disait Marois, mais ce que disent également le Sarre et Tardif hein, dans le travail au quotidien de l'enseignant. C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce de jungle d'opinion, hein, pour citer Giddens, une jungle d'opinion absolument contradictoire, des discours qui prolifèrent, très contradictoires, qui renvoient la profession à eux-mêmes. Enfin, c'est-à-dire que tous les enseignants vont être amenés à se débrouiller et à trancher parmi cette jungle d'opinion. Et je crois que là, la recherche contribue, elle aussi, très fortement à accroître cette espèce d'inflation de discours. Alors, une recherche qui est aussi une recherche surplombante, hein, qui dit les bonnes pratiques. Alors, moi, je crois qu'on a aussi à se poser des bonnes questions, hein, aussi. Les gens qui sont là et la recherche qui continue de travailler avec l'INRP, c'est aussi une prise de position qui n'est pas toujours soutenue par notre communauté de recherche. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans vos laboratoires respectifs, mais bon, nous, on a aussi à affirmer notre volonté de continuer à travailler dans une recherche qui est une recherche non pas surplombante, qui viendrait surajouter des discours de bonnes pratiques, mais notre volonté de travailler au plus près du réel de l'activité. Et ça, c'est pas toujours partagé par nos collègues dans nos laboratoires. Donc là aussi, en question d'évaluation, quel est le poids de la recherche? Comment elle vient non pas se positionner en tant que position sur plombante de bonnes pratiques, mais comment au contraire elle vient accompagner les équipes et faire valoir ce que tu dis hein, sur le travail de la complexité de l'enseignant. Donc c'est une autre position. Et puis dernier point, c'est notre cuisine interne, mais bon, moi j'y suis sensible. Concernant notre propre évaluation de notre propre travail de chercheur du point de vue individuel, du point de vue des équipes, vous savez bien par exemple que le temps que nous passons ici, bon, comment il est comptabilisé, comment il est envisagé dans notre travail de chercheur, c'est aussi de notre part, je dirais, une volonté affirmée que de dire, bon, mais tant pis, on prend ce risque-là, de dire on passe deux jours à l'INRP et si on regarde notre évaluation, ben c'est zéro. C'est pas décompté de notre temps de travail, c'est pas comptabilisé dans notre bibliométrie, voilà. Donc c'est aussi une prise de risque et une volonté affirmée de dire, ben, l'évaluation, en tous les cas, le regard que porte l'évaluation, il y a aussi, il faut s'affirmer, voilà. Et j'avais envie de dire que c'était une position politique et éthique de notre part.
Sur la question de l'évaluation des élèves, donc évidemment, moi je partage vraiment l'idée que c'est une source de développement potentiel pour les enseignants. Moi j'ai travaillé un petit peu sur quelles difficultés les évaluations institutionnelles posent aux enseignants et pourquoi les enseignants ont ce discours de dire on a fait passer les évaluations mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait, on n'en sait rien. Bon, et c'est vrai qu'il y a une culpabilisation qui est de plus en plus renforcée sur remédier. C'est simple puisque vous avez le diagnostic et je vous renvoie aussi à la conférence de presse qui vient d'être mise en ligne où on a une démonstration toute simple sur, ben voilà, une fois qu'on a la liste des erreurs, ben on voit bien qu'il a telle difficulté, donc remédier. Le ministère dit, bon ben là on s'excuse, ça fait que deux mois qu'il y a de l'aide individualisée, donc on n'a pas encore complètement fini la remédiation, mais ça va venir. Et donc le discours de Faux-Monnayeur, il est auprès des enseignants comme si c'était simple. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on a ces résultats d'évaluation, c'est, comme le disait Anne-Jo hier, ce qu'on met en place derrière comme accompagnement des équipes qui va permettre de travailler accompagné sur le temps long, dans lesquels on va progressivement basculer de... L'idée n'est pas de savoir s'ils sont sages, l'idée c'est de savoir s'ils apprennent. Et donc ce changement de paradigme professionnel, il est extrêmement long. Et le discours de Faux-Monnayeur, il est sur « c'est simple ». Sous-entendu, si vous, enseignant, n'êtes même pas capable de faire la remédiation, alors vous êtes des ânes. Et il y a un colloque ce week-end, deux jours, organisé par le GFEN et le Café Pédagogique sur l'aide, comment faire pour qu'il s'en passe. Et on va travailler avec Claude et Rochex et d'autres sur cette question-là. C'est vraiment un objet de lutte, merci de le dire comme ça, parce que évidemment, il y a un vrai risque pour que nos collègues aujourd'hui disent ben, finalement, sous cette prescription des évaluations, on met à la porte les évaluations. On ne se fie plus que à notre regard intuitif Sous-entendu, ça ne sert à rien ces évaluations, je le savais déjà, Kevin, etc. Donc, bien sûr que c'est important, mais outiller les gens, ça veut dire les accompagner, et ça veut dire pour les corps intermédiaires que nous sommes, les uns ou les autres, se poser des questions sur comment est-ce qu'on sort du discours prescriptif et comment on accompagne. C'est vrai que c'est une révolution à la fois pour les équipes de recherche et à la fois, on peut oser se le dire, pour les accompagnants. Parce que je connais peu de travaux sur que faire pour aider les enseignants à faire quelque chose des évaluations institutionnelles, ce qui les aide à sortir de la posture refus d'eux.
Faut peut-être pas focaliser sur ce point qui était un peu... Enfin, qui est l'actualité.
Moi, j'aime bien l'expression de la flexibilité embourbée.
Oui.
Je trouve qu'on a un peu dans ce contexte-là, un peu partout, qu'on se situe à l'université, à l'école, au collège, on a du mal à penser avec distance et ce qu'on voit, c'est toujours ce qui va pas, quoi. Et on est prisonnier de ce qui va pas. Et on n'arrive pas à dégager des pistes, à explorer de nouvelles pistes, quoi. Et je trouve que c'est un vrai problème aujourd'hui parce que bon, le contexte est un contexte d'immenses contraintes dans tous les sens et retrouver un horizon, retrouver un élargissement dans nos modes de réflexion pour les professionnels déjà en situation professionnelle, mais pour ceux qui sont en train de construire se construire dans le métier, moi je trouve que il y a peut-être des enjeux de recherche là-dessus autour de ça, c'est-à-dire que la réflexivité, on l'a pas assez travaillée de ce point de vue-là. De ce qu'on traîne avec nous, de l'expérience qu'on n'arrive pas à digérer forcément, et des objets sur lesquels on ressasse en permanence. Je trouve que, tu vois, là, il y a quelque chose pour la professionnalisation ou la professionnalité à venir, mais c'est un terme qu'il faudrait maintenant travailler de près, quoi.
Dans le cas de la formation, moi, j'étais frappée les enseignants. La manière dont ils décrivent en se polarisant à cause de la valence très émotionnelle des incidents de gestion de classe, très affective, la manière dont ils décrivent systématiquement des incidents, hein, sans jamais décrire. Alors, dans l'entretien, après, on a les ressources qu'ils ont mis en place pour éviter d'autres incidents. On a tout ce qu'ils font en positif. Mais dans un premier temps, dans les entretiens longs que je mène, on a les incidents. Le catastrophe, la petite fille qui pleure, là, si, le, voilà. Et là, je crois qu'effectivement, c'est un enjeu de recherche, mais c'est incroyablement un enjeu, voilà, et de réflexe de professionnalité, hein, de pouvoir arriver à se décrire complètement, et non seulement par ce qui a fait mal affectivement, hein, parce que le problème de ces incidents de gestion de classe, c'est qu'ils débordent le rôle, hein, c'est qu'ils débordent le rôle, ils atteignent la personne en général directement. Il n'y a plus assez de rôle, où le rôle doit être trop construit au jour le jour, pour qu'on ait ce paravent institutionnel, si vous voulez, qu'il n'y a peut-être jamais eu d'ailleurs. Mais donc ça c'est un enjeu extrêmement important. Et ça peut passer d'ailleurs, moi j'avais pensé aussi, par une meilleure connaissance des élèves, par une meilleure compréhension de la logique des élèves. Les jeunes enseignants, j'ai quand même fait des interventions en UFM, ce qui les rassurait beaucoup, c'est quand je leur disais que les élèves, ils vivent 7 heures de cours, bon, il y a eu du chahut de 4 à 5, l'enseignant va méditer sur le chahut de 4 à 5 jusqu'au lendemain matin, mais les élèves, ils sont dans l'ordinaire de la classe. Et donc c'est aussi se décentrer et connaître l'expérience des élèves, faite de ces cyclotimies, faite de ces qui rassure, je crois, les jeunes enseignants. Mais c'est aussi un enjeu pour la recherche, oui. Parce que c'est vrai que le projet de réflexivité, hein, qui est un beau mot, mais c'est un projet très rationnel, hein, de maîtrise de soi, soit par des savoirs de la recherche, soit par un recul, etc. Mais il y a là aussi une face un peu sombre de la réflexivité, hein, lorsque le recul piétine et lorsqu'il se polarise sans arriver à prendre une vue d'ensemble de son activité.
Et individuel.
Individuel.
C'est comme professionnalité, enfin, on voit bien que c'est un peu anglo-saxon, je dirais, regarde les bouscules en disant le poids des collectifs de travail. Enfin.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, comment construire des collectifs de travail autour d'exercices aussi singularisés du métier, voilà. Sans nier cette singularité, parce qu'elle est riche, voilà. Ça, c'est, il me semble, un enjeu, un chantier. Alors moi, je l'ai fait avec moi, mon petit opérateur, c'est celui d'épreuve. Bon, bref, je vous passe sur mon petit opérateur, mais comment, vous en avez d'autres, mais je crois qu'on est dans le même chantier, quoi. Comment reconstruire ce collectif de métiers sans nier cette richesse de ressources individuelles qui fait qu'on fait pas court comme Bégodeau, on gère pas comme Bégodeau, mais on est face aux mêmes épreuves que Bégodeau. Excusez-moi, j'ai été choquée, parce qu'il y a eu Mérieux, bon, passe, mais il y a eu plein d'enseignants aussi dans les journaux, hein, qui ont dit c'est nul pédagogiquement, il fait pas ci, il fait pas ça. Oui, bon, il fait ce qu'il peut, etc. Mais j'ai trouvé terrible la condamnation du métier de... Voilà, j'ai trouvé terrible. Donc comment sortir ?
Des collègues de classe bien identiques, hein, qui disent, oui. Je ne me reconnais pas là-dedans.
Mais c'est ça qui va. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas parce que il y a un truc qu'il faut faire jouer le travail sur la singularité en contexte contre cette surindividualisation qui divise le métier. Je sais pas comment on peut faire ça. Je sais pas comment on peut faire ça. En tant que chercheur, on peut le proposer, mais enfin, c'est faux qu'on n'a pas affaire à. Je dis pas qu'on a affaire à la même classe que Bégodeau. C'est faux que les enseignants n'ont pas affaire à ça. Enfin, moi, je sais que va contre mes résultats de recherche. Ils ont affaire à cette gestion du relationnel qui s'autonomise, qui est super compliquée. Alors, il prend des options pédagogiques qui peuvent paraître trop proches. Moi, je crois surtout que le vrai débat, c'était sur la distance hiérarchique entre Bégodeau et ses élèves. Je crois que le débat, il était aussi là-dessus, mais est-ce que c'est pas une controverse du métier dans lequel la professionnalité s'est décidée de sa distance en sachant qu'il y a différents styles d'autorité aujourd'hui et qu'effectivement, lui, il est pas dans une autorité très, il est dans une autorité beaucoup, un peu contractuelle, etc. Voilà, enfin.
Je trouve qu'on a constamment, enfin, et puis là, dans l'actualité, ça le prouve encore, hein, le fait de mettre l'accent systématiquement sur la crise, je crois que le fait de travailler sur le développement, c'est travailler sur une dynamique, c'est donc travailler bien sûr sur les limites, les empêchements, les dysfonctionnements, mais en même temps, c'est extrêmement corrélé, sur les potentialités de métier. C'est-à-dire comment justement face à cette situation auquel Bégodeau doit faire face, qu'est-ce qu'il met en place ? Qu'est-ce qui mobilise comme ressources pour que quand même la classe fonctionne ?
Ouais.
Parce que cette classe, elle fonctionne. Même si à un moment donné, elle ne fonctionne pas toujours comme on aurait des modèles a priori, elle fonctionne. Donc je crois que le travail de l'évaluation, il porte aussi sur ça. C'est-à-dire la capacité que les équipes de recherche et les professions intermédiaires ont de mettre l'accent sur la dimension développementale,
ouais.
C'est-à-dire sur la manière dont se construit dans la temporalité des ressources.
Et ça,
je crois qu'on a, Fred Soja, soit disait, il y a des regards de par la profession, des regards en creux. Oui, on voit 2 minutes de film et on dit, oh non, ce formateur, il est nul. Là, des regards en creux. C'est comment, justement, hein, ça vient s'inscrire dans une dynamique, dans une temporalité. Les choix qu'il fait aujourd'hui, les arbitrages, les compromis, qu'est-ce qui les cadre,
ouais.
Qu'est-ce qui remobilise et qui lui permet quand même que alors, la classe est un état de marche.
Ouais. Alors après,
je crois que notre ouais. rôle, il est là aussi. Hein, c'est de aussi faire valoir ses potentialités à la fois du métier, la reconstruction des ressources, comment les gens viennent mobiliser, y compris qu'est-ce qu'ils vont puiser dans le métier d'ancien. Qu'est-ce qui vient de réactualiser dans l'aide individualisée ? Les gens, ils disent, mais ça a deux mois. Mais le métier a construit de la ressource quand même sur c'est quoi aider un élève. Le métier a construit de la ressource sur c'est quoi de la remédiation, c'est quoi de l'anticipation. Bon, et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit aussi le rapport d'un Armand qui est absolument terrible et à la fois ô combien juste. C'est-à-dire cette difficulté que les enseignants ont à définir exactement ce qu'est la difficulté d'un élève en particulier, et pas « j'ai des élèves difficiles ». La difficulté à construire une réflexivité sur « c'est quoi enseigner ?» Construire une réflexion sur, hier on disait par rapport à la jeune collègue, comment enseigne-t-on la compréhension ? Moi, je trouve le nouveau livre de Sylvie Seb et Guagou sur un lecteur-lectrice fabuleux.
Oui.
C'est-à-dire tous ces savoirs invisibles, finalement, à quel moment décide-t-on effectivement là, de travailler sur ces questions-là ? Et nous, on conduit cette recherche avec François. Écoutez, au mois de novembre, on avait démarré en septembre. les enseignants, tous les généraux, ils voulaient des retours d'experts. Alors, et ce sont tous des maîtres formateurs, c'est une école d'application. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que... Mais non, mais c'est trop long. Mais comment c'est trop long? 2 mois, on a fait toutes les transcriptions, on fait des retours au collectif, on a sélectionné des extraits qui nous paraissent emblématiques de quelque chose et du métier. On donne ça à discuter dans... Et non, eux, ils veulent la certification. Est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce qu'on est dans le juste? Mais tu as raison. Ce qui pèse là aussi, c'est aussi toute la dimension politique qu'on écarte sans arrêt du métier. Hein. Eux, ils ont décidé de faire cette aide personnalisée à l'encontre de la profession. C'est-à-dire que chez nous, enfin à Marseille, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres académies, mais il y a un certain nombre d'enseignants qui ont été sévèrement sanctionnés avec retenue sur leur salaire pour refuser d'entrer dans ce dispositif. Vous voyez comment se place cette équipe qui, elle, dit « Nous, on veut bien tenter l'expérience, mais pas sur de la remédiation, sur de l'anticipation. Et on veut travailler dans ce sens-là. Ben, » ils disaient « Mais nous, on veut avoir un retour parce qu'on veut savoir si l'année prochaine, on n'est pas des traîtres. Est-ce qu'on peut continuer ?» Vous voyez, et dans cette position intermédiaire, eh ben, ils voudraient aussi qu'il y ait, que la recherche s'implique. Donc, bon, je crois que cette question d'évaluation, elle transparaît tout autant dans notre travail. Et qu'on a évidemment à se poser des questions des résultats, de qu'est-ce qu'on rencontre, comment on remet des questions du métier de la profession au travail, qu'est-ce qu'on en dit, et au niveau aussi de ce qu'on écrit. Hein. Ça me paraît important de ne pas toujours. D'ailleurs, on peut finir sur ça, mais je n'ai pas de compte à régler particulier avec les didacticiens. Pour avoir travaillé 10 ans avec les didacticiens, nous avons travaillé sur les dysfonctionnements, sur les incidents critiques, sur... Voilà, on prend évidemment 2 minutes d'extrait et on descend tout ce qui ne va pas. Bon, c'est un point de vue, c'est un point de vue. Je pense, là, aujourd'hui, qu'il est... après, il faut qu'on se repose des questions. Donc, oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais que met l'enseignant en œuvre? Qu'est-ce qu'il réactualise? Qu'est-ce qu'il va piocher comme ressources? Et qu'est-ce qui fait que, finalement, ça marche? Parce qu'il y a une efficacité malgré tout. Hein. Je reviendrai cet après-midi. Et même chez les Godots, la classe, elle fonctionne. Elle n'éclate pas, malgré tout.
Non, non, je pense que ce rapport à ce qu'on réussit dans ce qu'on fait... Hein, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a un problème de reconnaître les réussites. Hein. C'était ce que tu proposais aussi. Ça me paraît un réflexe professionnel hein, qui est pas acquis hein, hein, pour des raisons. Et c'est un réflexe professionnel qu'il faut absolument diffuser par les jeunes enseignants, mais au fond aussi avec d'autres enseignants. Quoi. Systématiquement s'apercevoir. C'est un effet de miroir. C'est des effets de miroir et d'empilement dans le système éducatif. Sur les élèves, on ne cesse de fustiger une pédagogie qui insiste sur les échecs, qui insiste, etc. Mais parfois, en tout cas au niveau des chefs d'établissement, j'avais trouvé qu'ils avaient tendance à reconduire au niveau des enseignants le regard qu'ils trouvaient tout à fait stérile au niveau des enseignants sur les élèves. Hein. Ils évaluaient implicitement de la même manière les enseignants, alors qu'il condamnait cette manière d'évaluer de la part des enseignants sur les élèves en disant que c'était totalement décourageant, démotivant. Voilà.
Et on a même parfois cela du point de vue de la recherche, et en particulier sur la question de l'efficacité des enseignants qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas bons. Sur la question des inégalités scolaires, et c'est quelque chose qu'ici, au Centre Alain Savary, on a souvent réfléchi ou entendu penser, quand on est dans la production des inégalités scolaires qui est le résultat du fonctionnement du système, mais on en arrive très souvent au résultat des pratiques des enseignants qui aggravent les inégalités scolaires, quoi. Et ça, du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui est important à creuser, à penser, à réfléchir, et aussi du point de vue de la recherche, parce que moi, ce qui m'intéresse quand même aussi beaucoup à voir, c'est la recherche, quand elle travaille sur les pratiques enseignantes, il y a une forme d'évaluation malgré tout. Enfin voilà, et qui n'est pas toujours pensé, qui n'est pas toujours justement étayé suffisamment sur des points précis, qui n'est pas toujours suffisamment... Enfin, c'est un petit peu une impression que j'ai et que j'aimerais aussi qu'on puisse discuter sur ces questions.
Le grand absent du séminaire, c'était l'enseignant efficace, la figure de l'enseignant efficace. Hein. Aucune des équipes, et c'était un soulagement pour moi. Mais l'enseignant efficace au sens des bonnes pratiques, c'est vrai que c'était absent du séminaire. À la fois, je crois que la solution, c'est d'accepter qu'on est dans une sphère d'expertise incertaine, où y compris les effets sociaux des pédagogies, oui, on a quelques repères, c'est vrai. Il y a des recherches, par exemple, le cercle vertueux de la pédagogie de projet, de la démocratisation sociale a été rompu par les recherches. Mais pour un certain nombre d'enseignants et même de chefs d'établissement qui sont là-dedans à mort, c'est sûrement difficile à entendre. C'est sûrement difficile à entendre. Et je pense que donc on n'introduit pas ça comme ça, hein. Et puis, on le métisse avec des savoirs d'expérience. Peut-être que la pédagogie de projet, elle creuse un certain nombre d'inégalités sociales en mettant des élèves dans des situations trop autonomes, mais peut-être qu'elle les réconcilie avec l'école, à un moment où il faut les réconcilier avec l'école. Ah oui, alors, parce que c'est gentil d'être, de produire de l'égalité sociale, mais il faut que les élèves soient là, il faut qu'ils acceptent l'école. Donc c'est plus compliqué que dire la pédagogie de projet creuse les inégalités sociales, point. Hein. Et donc voilà, il faut accepter de rentrer dans ce dialogue qui est une expertise incertaine et qui devrait donc être un pôle aussi délibératif. Et c'est vrai que je trouve que dans les établissements, enfin tels que moi je les ai rencontrés pour l'enquête, les débats se font pas là-dessus. Les débats, ils sont dans l'ancien monde, des statuts des enseignants, des services, des grilles, des est-ce qu'il faut libérer les élèves le 12 juin ou le 15 juin. Les débats sont pas sur des débats pédagogiques. Moi, j'ai été frappée des chefs d'établissement qui proposaient des projets hallucinants. Enfin, je veux dire en termes de modernisation. Il y en avait un qui avait fait un service ressources humaines, un service relations internationales. Il avait restructuré tout son établissement comme ça. Bon. Il était en super conflit avec les équipes, non? Mais il n'était pas en conflit sur son projet. Il était en conflit parce qu'il traitait mal des maîtres assistantes ou il traitait mal un certain nombre de gens. Bon, il était en super conflit. Mais pas là-dessus. Pas là-dessus. Pas sur des options pédagogiques qui pouvaient être discutées. C'est quoi un service ressources humaines? C'est quoi? Il y avait un service pédagogie. Bon. Ben, le collectif existait, très fort, très fort, très syndiqué, c'était la guerre à mort, le collectif il existait. Mais il n'était pas sur ces objets-là, voilà. Il n'était pas sur ces objets-là. Et ça c'est quelque chose que j'avais fortement vu dans la recherche. Parce que les enseignants ont du mal à s'engager aussi là-dedans, alors qu'il faut. Et du coup, on a la tentation que ce soit effectivement soit des formateurs, soit des chefs d'établissement. Alors les formateurs, je pense de manière tout à fait différente, hein, qui puissent finalement faire descendre des certitudes, etc. Au lieu, je crois, de pouvoir faire entrer dans le métier par ces controverses et ces délibérations. Ça, je pense que c'est un vrai problème.
Bien, il est midi pile. Tout va bien. On a déjà bien amorcé la discussion, mais donc merci beaucoup pour cette intervention qui nous a.
Oui.
Signaler que à la demande de certains collègues présents du convoque cet après-midi, on a fait photocopier une biblio.
D'accord.
Donc des écrits à gaffe, on va dire, avec certaines ressources téléchargeables en ligne, en espérant que les liens soient toujours valides, sinon chercher l'UFM, les français, recherche et publication, c'est un peu ce qu'on va faire. Et deux articles qui sont un petit peu, on va dire, deux cadrages de grandes options.
Merci. Et on a aussi le PowerPoint de l'équipe civique qui a été imprimé et qui est disponible sur la table devant. De toute façon, ce qui va se passer cet après-midi va être enregistré, sera mis en ligne, donc pour les absents, vous pourrez l'écouter.